Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Génération Écologie. Nous sommes le 12 février 2026 et on se retrouve pour parler santé et capacité d'agir des municipalités avec Sylvie Justhomme, adjointe au maire de Bordeaux en charge de la sécurité sanitaire, de la santé et des risques majeurs depuis 2020. Comment les municipalités peuvent-elles agir sur la santé ?
Alors, effectivement, tu as bien introduit la question en partant du fait qu'il y a un problème de légitimité des villes sur la compétence santé. Et moi, je tiens au contraire que la ville, la santé est le problème prioritaire d'une ville, dans la mesure où, en lien d'ailleurs avec la décroissance et avec l'écologie, il y a des conséquences directes sur la santé des habitants de toute action publique à l'échelle d'une ville, qu'il s'agisse des mobilités, des logements, des transports, de la propreté, etc. Enfin, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. On peut partir de la définition de l'OMS qui affirme que la santé est un état complet de bien-être, à la fois physique, mental et social, et pas seulement une absence de maladie. Ce qui sonne comme une espèce d'idéal inaccessible d'ailleurs, mais en tout cas, en même temps, on sait que seulement 10% de la santé dépend de facteurs génétiques et seulement 15% des soins, du système des soins, 25% seulement également des comportements individuels. Et donc, c'est au moins 45% des déterminants de santé qui viennent de l'environnement. En l'occurrence urbain, c'est ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de l'environnement d'une personne auquel elle est soumise tout au long de sa vie, depuis la naissance et même avant la naissance jusqu'à sa vieillesse. Donc, c'est bien de la responsabilité de la collectivité d'assurer un exposome qui soit sain. Et ça passe par les repas dans les cantines, les espaces verts, les produits utilisés pour gérer la propreté de la ville, les collectes de déchets, les choix aussi de mobilité, c'est l'automobile ou les mobilités actives. Enfin, à peu près tous les domaines de l'action de la ville ont un retentissement positif ou négatif sur la santé, et l'inaction a aussi des retentissements négatifs sur la santé des habitants. Donc, je pense que pour répondre à la question, quelle action les municipalités peuvent-elles avoir en santé, pour la santé, je pense qu'il faut partir d'une vision assez claire et imposer cette vision. Et pour moi, c'est une vision qui est celle vraiment globale de la santé par opposition aux soins. Parce que jusque-là, on avait, enfin, d'ailleurs, mes homologues adjoints à la santé dans d'autres villes sont très généralement des médecins et ils sont un peu enfermés dans cette vision soins. Et dans cette vision qui est très liée à l'industrie pharmaceutique et chimique, qui est très liée aussi, qui est très hospitalo-centrée, ou alors centrée sur les cabinets libéraux. Et donc, lorsqu'on s'oppose à cette vision assez étroite et surtout très descendante de la santé, eh bien, on arrive à la démocratie en santé, parce que c'est aux habitants d'avoir le choix, d'avoir la possibilité, d'avoir les accès, d'avoir les informations, d'avoir accès non seulement aux soins, mais à la prévention. Et il faut aussi exiger que le domaine des soins soit ouvert, compréhensible, lisible par tous les habitants. Donc, je pense qu'une ville peut agir en santé à partir du moment où les élus sont des porte-parole des habitants et ils doivent donc réclamer un langage clair et un droit garanti à la santé et pas seulement aux soins. Ensuite, une vision qui est également intégrative, c'est-à-dire pas seulement les soins physiques, minutés, avec des consultations de 15 minutes, avec des délais d'attente, avec un filtrage aux urgences, etc., mais vraiment une conception plus large, à la fois physique et mentale, C'est pour ça que j'ai fait de la santé mentale vraiment la priorité de la politique santé pendant ce mandat, et également sociale. Donc c'est ça qu'on appelle la santé intégrative au sens québécois du terme, à la fois physique, mentale, sociale et bien sûr environnementale. Et donc là, on affirme une couleur écologiste d'une politique de santé en priorisant la santé environnementale, justement, et aussi en affirmant la notion de une seule santé, à la fois végétale et même minérale, le sol, la terre, les végétaux, les animaux et parmi ces animaux, l'humain. Et ce continuum de l'environnement sain permet d'avoir une vision extrêmement englobante de la politique de santé et des actions qu'on peut avoir en santé. Et ça débouche évidemment tout de suite sur l'urbanisme favorable à la santé. Ça, c'est un combat à la fois très précis, très nouveau aussi, assez difficile à pénétrer, mais décisif. L'urbanisme favorable à la santé, on a vu pendant l'épisode Covid que les extérieurs étaient fondamentaux. L'aération naturelle est un des facteurs de protection majeurs contre la contamination virale. Et donc, il faut décider de ne plus construire d'appartements sans extérieur et essayer également de donner accès à la nature à tous les habitants, quel que soit leur quartier, quelles que soient leurs inégalités territoriales, socio-économiques. Il y a des quartiers favorisés, des quartiers défavorisés vis-à-vis de l'accès à la nature, et ça, c'est décisif aussi pour la santé. On l'a vu pendant l'épisode Covid. Moi, je raconte souvent une anecdote, c'est que pendant l'épisode Covid, j'avais une réunion par semaine avec la préfète. À l'époque, c'était la préfète Fabienne Bussiaud, assez connue pour son rigorisme et son manque d'écoute. Et donc, je plaidais bien sûr pour un accès à la nature et pour l'élargissement de la fameuse règle 1 heure 1 kilomètre, parce que certains habitants dans la ville n'avaient en 1 heure et à 1 kilomètre n'avaient pas du tout accès à un parc, à un espace vert. Et elle me répondait premièrement que les gens avaient choisi où ils voulaient se confiner, ce qui est quand même assez significatif de son côté hors sol. Elle me disait aussi que j'étais adjointe à la santé et que je n'avais pas à favoriser la contamination et le brassage avec mes demandes tout à fait inadéquates. Et enfin, elle me disait qu'une préfète ne peut que durcir les décisions nationales et jamais les alléger, ce qui est quand même intéressant à savoir aussi. L'urbanisme favorable à la santé, ça c'est vraiment quelque chose qui peut changer la ville et changer la santé dans la ville. Mais il y a également la santé dans toutes les politiques, et ça, c'est donc un enjeu de transversalité, un enjeu de conviction pour que tous les services techniques de la ville et tous les élus de la ville se sentent concernés et se sentent partie prenante dans l'enjeu de santé dans la ville. Et puis, cette vision de la santé, elle s'appuie aussi beaucoup sur la notion de prévention, au pluriel, parce qu'on parle de prévention primaire, mais il y a aussi la prévention secondaire, tertiaire, et surtout, il y a la prévention primordiale. On est embarqué dans une recherche universitaire avec le CNRS, avec différents instituts aussi. De médecine et l'université de Bordeaux aussi, sur une enquête qui cherche à évaluer les impacts des actions publiques sur la santé de l'enfant. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'enfant avant la naissance, donc dès les 1000 premiers jours. Alors, quel rôle on peut se donner quand on est dans une ville et quel levier d'action on a? Je dirais que enfin, c'était dit tout à l'heure, on dit toujours, et on commence souvent par là, en disant la ville n'a pas la compétence santé. Si, la ville a des compétences générales, et au titre de ces compétences générales, elle a la compétence santé. Et à partir du moment où, comme je viens de le dire, la santé irrigue toutes les politiques de la ville et elle a des conséquences positives ou négatives sur les habitants, dans leur santé, on arrive à légitimer, pardon, la santé dans les compétences de la ville. Mais c'est vrai que c'est toujours une bataille. Et ce qui a, enfin, je l'ai cru en tout cas en début de mandat, j'ai cru que l'épisode Covid allait imposer la compétence santé d'une ville parce que c'est le premier kilomètre et non pas le dernier comme disent souvent les interlocuteurs. Et puis finalement, on le sait, l'épisode Covid a été refermé sans en tirer beaucoup de leçons. Ça n'a pas marqué vraiment les esprits. On s'est dépêché d'oublier tout ce qu'on a découvert pendant le Covid. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'éveiller les consciences à la dimension santé dans les compétences de la ville. Ensuite, évidemment, la ville n'est pas toute seule et enfin, les institutions en santé se passent assez facilement de la ville sur les enjeux de santé. Et il y a également beaucoup d'associations et beaucoup de partenaires institutionnels ou non qui s'occupent de santé. Mais justement, je pense que le rôle de la ville, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu pendant ce mandat, c'est de faciliter les questions de santé, les actions de santé, la réception à ces actions de santé. Et c'est aussi d'animer un réseau avec tous ces partenaires, tous ces acteurs du territoire qui sont réunis géographiquement et thématiquement aussi par l'enjeu de santé. Et puis, le quatrième rôle que je donnerais à une ville en santé, ben, c'est justement de plaider à l'aide de ses actions, de ses exemples, mais aussi de ses argumentaires au national, au niveau européen et au niveau international pour une prise en compte de la santé dans toutes les dimensions d'aménagement ou autres de la vie de la cité. Alors les leviers d'action que moi j'ai trouvé au fil du mandat, c'est d'abord les réseaux des villes. Si j'avais pas eu les réseaux des villes, je me serais sentie bien seule et je pense que Bordeaux serait aussi très isolée. Donc il y a un réseau de villes en santé qui est très actif et qui permet à la fois pour la ville et ses acteurs en santé, de trouver des informations, des parangonnages, des exemples, de s'inspirer, de plaider également. On l'a fait là-bas, donc on peut le faire à Bordeaux, etc. Ça sert énormément. Et puis, ça sert aussi à avoir des informations, des données, parce que c'est crucial dans la politique publique. Il faut des données, il faut savoir d'où on part et comment se donner des objectifs atteignables et comment les évaluer, comment les budgéter, etc. Donc comment traduire des objectifs en feuille de route si on n'avait pas les données et on ne pourrait pas faire grand-chose de probant, notamment pour nos partenaires et en particulier pour l'Agence régionale de santé qui demande des preuves pour lâcher le moindre financement. Donc ça, c'est important. Et les informations, les données, moi, je n'arrivais pas à les avoir par les services internes de la ville. C'est sans doute différent dans d'autres villes, mais en tout cas à Bordeaux, c'était très très compliqué d'obtenir des données. Souvent, elles n'existaient pas, elles n'étaient pas construites. Et parfois aussi, on les estimait pas utiles ou enfin voilà, j'avais beaucoup beaucoup de difficultés pour obtenir des données. Donc les réseaux de villes m'ont été très utiles. Et il y a le réseau français des villes santé de l'OMS, c'est le premier réseau sur lequel je me suis appuyée, dans lequel j'ai été vraiment très active. Bordeaux est entrée au conseil d'administration du réseau en 2021. Donc en début de mandat, et est entré au bureau aussi du réseau en 2024. J'ai réussi aussi à faire venir le colloque national annuel du réseau à Bordeaux pour la première fois en 2024 sur le thème activité physique et santé, ce qui m'a permis là encore d'avancer dans l'enjeu santé dans toutes les politiques parce que le service des sports et l'élu au sport n'étaient pas du tout orientés sport santé. Donc, ça a été un plaidoyer. En plus, c'était l'année olympique, donc on a pu avancer quand même un petit peu sur cet enjeu-là, activité physique et santé. On a pu expérimenter une maison sport santé municipale budgétée entièrement par la ville et qui, malgré son grand succès, a dû fermer parce que l'Agence régionale de santé n'a pas soutenu au-delà de l'expérimentation, tout en disant que c'était très réussi. Mais bon, budgétairement, on ne pouvait pas continuer non plus à 100% ville. Donc, il a fallu l'interrompre, cette maison sport santé, tout en gardant une politique de sport santé appuyée sur le PEPS départemental. Bon, ça, c'est un exemple. Et au-delà du réseau français des villes santé de l'OMS, je fais aussi partie, enfin Bordeaux fait aussi partie, à travers moi bien sûr, du réseau Élus Santé Publique et Territoire, du réseau Élus Locaux contre le Sida. Et on a obtenu un label dans ce réseau pour nos actions prévention Sida. Du réseau de France Urbaine, Commission Santé, je siège aussi à la Commission Santé de France Urbaine, et même du réseau des associations des maires de France, qui est pas du même bord que France Urbaine, mais je suis aussi tout à fait bienvenue, Bordeaux est bienvenue dans le réseau de l'AMF, et ça permet de porter des tribunes communes, de co-signer des lettres ouvertes, etc. Donc pour le plaidoyer, c'est très intéressant, et aussi pour la reconnaissance des actions bordelaises, pour leur visibilité, c'est tout à fait précieux. Donc c'est un levier d'action très très important. Et on dit souvent, nul n'est prophète en son pays. Donc c'est souvent avec les labels ou les reconnaissances des réseaux que à Bordeaux, on peut être finalement et dans un deuxième temps reconnu par les autres élus, par le maire, par le cabinet du maire et par les services techniques. Parce que tout ça, c'est de la conviction. Un autre levier, ben, ce sont les conventions, les partenariats et les contrats. On a créé un partenariat, enfin une convention cadre avec le CHU de Bordeaux. C'est la première convention cadre avec une ville après Paris. On a des partenariats divers et variés avec d'autres instituts, l'Institut Unicancer de Bordeaux, Bergonié. Et puis il y a le contrat, ben, le premier contrat auquel on pense en santé dans une ville, c'est le contrat local de santé porté par la ville et par l'Agence régionale de santé. Et là, c'est l'occasion, ben, de rapprocher plein de partenaires, de faire des tas d'ateliers publics, d'associer les habitants très très largement. Nous, on a fait une enquête en ligne en 2023 sur les demandes en santé pour renouveler notre contrat local de santé. On a fait également des débats dans tous les quartiers, puisqu'on a un dispositif très très intéressant qui s'appelle le Parlement mobile. C'est une espèce de petit théâtre ambulant qu'on déménage de quartier en quartier l'été, au mois de mai, juin, juillet. Et donc chaque année, on fait une tournée du contrat du Parlement mobile, et ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'habitants et de les associer à cette enquête. On a utilisé aussi ce que j'avais créé en 2021, c'est-à-dire le Conseil Bordeaux Senior Action, donc un conseil des seniors de la ville. On a aussi utilisé le Conseil municipal des enfants. Enfin voilà, tous les moyens démocratiques pour associer les habitants à aux choix de santé et aux actions prioritaires que la ville devait réaliser dans ce contrat local de santé qui dure 5 ans. Donc on l'a signé en 2025, en juin 2025, et il court jusqu'en 2030. Et on y a mis évidemment beaucoup de santé environnement, beaucoup d'accès aux soins quand même aussi, et puis beaucoup de prévention, promotion de la santé. Et enfin, le quatrième axe, c'est la santé mentale. Mais sur la santé mentale, on a également un autre levier d'action qui est le conseil local de santé mentale, qui est très très dynamique à Bordeaux. C'est puisque j'en ai fait une priorité de mandat. C'est la santé mentale depuis 2020, depuis ben, toutes les conséquences de la pandémie sur la santé psychique. On l'a vu chez les nouveau-nés, chez les enfants d'âge scolaire, d'apprentissage de la parole, enfin voilà, toutes ces conséquences, puis sur les chefs d'entreprise, enfin plein de nouvelles catégories d'habitants qui ont été touchés psychiquement par des problèmes de santé mentale inédits, dépression, suicide, etc. Donc ça nous a obligés à être très très volontaristes en santé mentale et à faire beaucoup de choses innovantes. Et donc, quand on cherche comment agir en santé dans une ville, je pense que il faut s'entourer donc de ces réseaux, il faut essayer de convaincre tous azimuts de s'appuyer sur la population, sur les associations, sur les partenaires. Et puis il faut aussi choisir ses combats, donc avoir des priorités claires. Pour moi, c'est lié aussi évidemment à l'épisode 2020-2026, hein, la santé mentale. Il y a aussi la santé des femmes, la santé des femmes vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire les inégalités de genre en santé, et puis toutes les inégalités de santé territoriales, sociales, bien sûr. Et puis un focus sur la prévention des cancers et sur la santé environnementale au sens plus large, mais santé environnementale et prévention des cancers, pour moi, sont extrêmement liés. Enfin, en tout cas, j'ai affiché un lien très fort entre les deux. Dès le début du mandat, une des premières décisions, ça a été de lutter contre les perturbateurs endocriniens, à la fois en changeant les conditionnements dans les cantines, en végétalisant les assiettes, mais ça, c'est un autre sujet, mais ça va ensemble aussi, et en adoptant l'inox, donc ça a été un long travail pour les cantines, puisqu'on sert 23 000 repas par jour. On a réussi là cette année, enfin fin 2025 à la Toussaint, on a dans toutes les cantines, dans toutes les écoles, on a des contenants uniquement en inox. On a abandonné tout ce qui n'était pas inox, y compris le carton, parce qu'il est quand même filmé de plastique. Donc c'est vraiment zéro plastique et zéro déchet. Et dès 2020, on a voté une délibération que j'ai portée, donc la gourde inox à tous les écoliers qui entrent en CP, à la fois contre les perturbateurs endocriniens, pour la qualité de l'eau du robinet et pour le zéro déchet, la fin des bouteilles en plastique à usage unique. Donc ça a lancé dès le début du mandat, une ligne qu'on a poursuivie et qu'on poursuit toujours sur la lutte contre les polluants, les perturbateurs endocriniens, et en particulier pour les enfants, mais pas que, enfin pour toute la population. On a mis en service dès l'été 2020 toutes les fontaines à eau, dont la plupart étaient en panne. On continue à en ouvrir de nouvelles. Voilà, on a repris aussi l'eau en régie métropolitaine, en régie publique. Donc tout ça va dans le même sens, hein, éviter les perturbateurs endocriniens, lutter contre les pesticides et montrer qu'on peut vivre plus sobrement. L'eau potable, ça c'est intéressant aussi parce que un litre d'eau potable coûte 100 fois moins cher qu'un litre en bouteille, et on connaît, mais ça c'est arrivé depuis, mais ça a confirmé tout ce que je me disais, c'est-à-dire que il y a des problèmes de santé publique sur l'eau en bouteille, et il y a des tromperies sur l'eau dite naturelle. Les grandes marques, on a bien vu les scandales qui se sont déroulés depuis maintenant au moins 2 ans. Ensuite, je pense qu'il faut aussi imposer l'idée de la proximité. La ville est légitime à s'occuper de santé parce que c'est le premier kilomètre. Ça, c'est, j'ai un peu radoté, j'ai répété ça des centaines de fois parce que on parle toujours de la ville comme le dernier kilomètre, que ce soit pour l'approvisionnement, que ce soit pour les décisions. Voilà, ça arrive du gouvernement et puis ça se propage à l'échelon régional, l'échelon départemental et puis finalement l'échelon municipal, et on appelle ça le dernier kilomètre. Donc moi, ça me fait toujours bondir, et je réagis toujours en porte-parole des habitants. Et pour les habitants, la mairie, c'est le premier kilomètre. C'est vraiment le premier recours et le premier kilomètre. Et c'est au nom de cette proximité, de cette présence sur le terrain que sont légitimes nos actions. Alors, on a beaucoup travaillé sur la prévention du tabagisme. Ça a été repéré tout de suite au national. Je vous ai mis dans le diaporama une réaction du Parisien dès 2021. Les cigarettes sont désormais interdites devant les écoles sous peine d'amende. Voilà, on a continué à déployer les espaces sans tabac, non pas de manière punitive, contrairement à ce que disait le Parisien, mais de manière pédagogique, puisque il s'agit de permettre aux enfants d'éviter à la fois les déchets polluants des mégots, le geste et l'initiation au tabagisme, Et évidemment, la quali de protéger leur qualité d'air, sans pour autant, évidemment, renvoyer les fumeurs à leur famille, à leur appartement, à leur maison, parce que ce serait vraiment le contraire du but recherché. On a aussi, toujours sur la santé mentale, travaillé de manière très volontaire et très visible sur la prévention à la surexposition aux écrans, et ça encore dès les 1000 jours, et en s'appuyant aussi sur les écoles, puisque les écoles, elles, sont de la compétence obligatoire d'une ville. Et donc, on a beaucoup développé la protection contre les écrans. Le 0-2 ans, zéro écran, c'est un ensemble de livrets qu'on a créés et qui ont remporté un prix national en 2022. Et puis, une opération qui maintenant est nationale, mais qu'on a installée en 2020, d'abord dans une école, dans deux classes, et puis aujourd'hui dans la majorité des écoles de Bordeaux, donc 119 écoles. La majorité, ça fait à peu près 60 écoles. Ça s'appelle le défi 10 jours sans écran, et ça a vraiment un grand succès. Maintenant, c'est connu et repris nationalement au mois de mai. Voilà. L'idée aussi de la transversalité de la santé, c'est de toucher à tous les domaines et surtout de sortir du médical pour des raisons de déstigmatisation des patients, qu'ils soient psychiques ou physiques ou handicapés, mais aussi pour des raisons de transversalité, enfin de, comment dire, de renfort de l'argumentaire. Donc art et santé, activité physique et santé, ce sont des liens qui sont très très importants pour la visibilité de l'enjeu santé dans la ville. Donc c'est pour ça qu'on a installé carrément des panneaux de co avec des seins nus. Ça c'était en 2023. Bon, ça a fait un petit scandale, mais c'était pour la bonne cause. C'était en octobre. Donc c'était contre le cancer du sein. On a beaucoup soutenu aussi une asso remarquable qui s'appelle Sœur d'encre et qui fait du tatouage thérapeutique sur les patientes amputées, enfin opérées, comment ça s'appelle déjà, enfin auxquelles on a retiré un sein, voire les deux seins. Et donc cette réparation par
Vasectomie.
tatouage, pardon?
C'est une mastectomie quand on
Oui,
enlève
c'est
le
ça,
sein.
mastectomie, merci. Mastos en grec, le sein,
Voilà.
tout à fait. Donc voilà, vous retrouverez tout ça dans le diaporama. Et on a inventé des choses aussi. Enfin, moi, j'ai inventé au moins deux choses. Le village de la santé durable, la première édition, on l'avait appelé Vers le bien-être. Bon. Et puis, on l'a installé chaque année au mois de septembre. Je l'ai renommé Village de la santé durable parce que je trouve que c'est plus explicite. Ça dit bien que on rassemble. Là, cette année, on avait rassemblé 44 partenaires. Ça peut être des hôpitaux, des cliniques, des libéraux, des associations de patients ou des associations professionnelles. Et ça permet donc de l'interconnaissance entre les partenaires et surtout un accès public gratuit aux habitants. Donc c'est un rendez-vous qui maintenant est bien bien installé. On prépare la cinquième édition là pour 2026 et on a eu 3 500 visiteurs l'année dernière. Donc je pense que c'est une illustration assez claire de ce qu'on entend par démocratie en santé, prévention aussi, et puis santé intégrative et environnementale. Et puis aussi le quartier à santé positive, oui, parce que on s'est battu pendant tout le mandat, et là, ça y est, on y arrive, pour l'ouverture d'un centre de santé municipal dans le quartier le plus défavorisé de Bordeaux. Donc c'était vraiment le plus difficile à obtenir. Donc en attendant, je me suis dit, bon, à l'inverse, il y a un quartier très très favorable. C'est le quartier qui a le plus voté écolo en 2020. C'est le plus petit quartier de Bordeaux, le plus bobo. Et donc, c'est là aussi que siège la Ligue contre le cancer Gironde et un institut contre le cancer. Je me suis dit, ben, ce quartier-là, on va en faire, je vais l'appeler quartier à santé positive. Et donc, on a déployé toute une série de spectacles pour les collégiens et les lycéens sur la prévention des addictions, sur le tabac, le cannabis, les drogues, les addictions aux jeux d'argent, et les addictions aux écrans. Voilà. Et ça, on l'a fait dans ce quartier-là, bon, pour lui donner une petite visibilité, thématique particulière, et aussi pour faire de la pédagogie, bien sûr. C'est un quartier où il y a beaucoup, beaucoup d'établissements scolaires, publics ou privés, donc ces spectacles ont bien marché. et j'espère que ça va continuer. Alors, si on fait le bilan 2020-2026, quel progrès? Ben, on est passé du la santé n'est pas une compétence de la ville au programme que j'ai entre les mains, le programme de la campagne de notre majorité écologiste et de gauche. Et le premier point dans ce programme, c'est la santé une priorité. Donc, je suis assez contente du chemin parcouru parce que on vient de loin, vraiment. Et on a des projets qui ont été travaillés pendant 5 ans, qui ne sont pas sortis là avant les élections, mais qui sont prêts. Ça y est, ils sont budgétés, ils sont validés. Donc, ils sont dans le programme parce qu'en fait, ils sont clés en main, quoi. On sait qu'on va tenir cette promesse-là parce que tout est prêt. J'aurais même souhaité que ça sorte avant les élections, mais bon, ça n'a pas été fait. Mais par exemple, ce centre de santé municipal en quartier politique de la ville, ça y est, je sais qu'il va sortir. Les paniers bio pour maman solo, ben, ça fait aussi des années que je porte ça, mais le budget ne permettait pas de le faire maintenant, mais ce sera forcément fait sur l'année 2027. Un sixième centre médico-scolaire, c'est quasiment fait aussi, puisque j'ai déjà une permanence du sixième centre, une préfiguration du sixième centre médico-scolaire, et puis une salle de soins, une halte soins addiction sur la réduction des risques toxicomanes. Bon, ben, ça s'est bloqué nationalement, mais enfin, c'est pareil. C'est un projet qui est archi prêt à Bordeaux et on attend qu'un déblocage du gouvernement pour l'ouvrir, quoi. On sait où, avec qui, pour qui. Enfin, voilà, tout est prêt. Donc, on a maintenant une visibilité, je pense, tout à fait nouvelle de Bordeaux en santé et une exemplarité. Enfin, j'espère aussi, c'est ce qu'on a essayé de construire, une exemplarité grâce à santé environnementale et un lien établi justement entre santé, sobriété, anticipation, anticipation des crises, anticipation du dérèglement climatique, et donc décroissance, quoi. C'est quand même en filigrane, même si le mot n'est absolument pas toléré par le maire, pour moi c'est ce que je porte et c'est ce que j'ai essayé d'installer au moins en santé à travers toutes ces actions pendant tout le mandat. Et on en arrive à une formule qui est sans doute moins désirable qu'on ne pouvait le penser en début de mandat, mais au terme de 6 ans de travail, moi je pense que, et je l'ai dit au dernier conseil municipal d'ailleurs, l'objectif aujourd'hui, c'est d'éviter l'ingérable et de gérer l'inévitable. On en est là aujourd'hui, mais je pense que ça demande déjà énormément d'efforts, énormément de volonté politique et que c'est le cap réaliste qu'on doit se fixer si on veut être un parti de gouvernement.